Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Le chiffre est astronomique. L'Arabie Saoudite annonce qu'elle va se doter d'un fonds souverain de 2000 milliards de dollars. Pour information, c'est plus que la capitalisation cumulée de Google, d'Apple et de Microsoft. Objectif, réduire la dépendance du royaume au pétrole, dont il tire 70% de ses revenus. Riyad, premier exportateur mondial, est fortement affecté par la chute des cours, moins 60% depuis l'été 2014. Notre pays saura vivre sans pétrole peut-être d'ici 2020. C'est même aventuré manifestement le vice-prince héritier, Mohamed Ben Salman, lors de la présentation d'un plan au nom évocateur vision saoudienne à l'horizon 2030. Alors, l'Arabie Saoudite pourra-t-elle sortir du tout pétrole? Pourra-t-elle changer de modèle? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jean-Louis Chilansky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Centre Hydrocarbures Non Conventionnels, le CHNC. Francis Perrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de Stratégie et Politique Énergétique et puis directeur de la rédaction de la revue Pétrole et Gaz Arabe. Francis Perrin, justement, une sortie du tout pétrole, est-ce que c'est crédible à court terme pour l'Arabie Saoudite? Je dis court terme parce que 2030-2020, c'est vraiment demain.
Alors, nous parlons d'une vision, pour l'essentiel, à l'horizon 2030. Ça fait une quinzaine d'années, c'est à la fois court et long. Mais très clairement, en 2030, il y aura encore beaucoup de pétrole en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite continuera à produire beaucoup de pétrole et à en exporter beaucoup. Il ne s'agit pas, dans cette vision à 15 ans, disons vision 2030, dans les documents officiels, de parler d'une sortie du pétrole, mais de parler d'une réduction de la dépendance du pays envers les revenus pétroliers, ce qui est très différent.
Donc l'idée, c'est de continuer, pour être clair pour nos auditeurs, continuer à vendre du pétrole, à commercer
Absolument.
Autour de l'or noir, mais que ce ne soit plus la première source de revenus pour le pays.
Diminuer effectivement la part des revenus pétroliers dans l'activité économique, dans le produit intérieur brut, dans les recettes d'exportation, dans les recettes budgétaires. Et ça, c'est un objectif, effectivement, tel que formulé, qui est essentiel pour tous les pays producteurs, notamment les pays producteurs en développement ou émergents, qui ont souvent une économie fort peu diversifiée, très dépendante du pétrole, ce qui est un facteur de vulnérabilité quand on a en mémoire, et on est bien placé puisqu'on est dans une phase de bas prix du pétrole, les vicissitudes sur les marchés pétroliers, la hausse, la baisse. Donc l'objectif tel que fixé dans les grandes lignes, l'orientation générale, est tout à fait raisonnable pour l'ensemble des pays producteurs, mais ce n'est pas chose facile parce que, pour reprendre les termes de Mohamed Ben Salman, qui a beaucoup de titres, ministre de la Défense, vice-prince héritier, président du Conseil économique et du développement, et ayant la haute main sur les affaires pétrolières également, l'Arabie Saoudite, a-t-il dit, a une addiction au pétrole et c'est dangereux. Mais l'addiction, c'est très bien, quel que soit le sens de ce terme, plus ou moins heureux, ce qui est clair, c'est qu'on n'en sort pas facilement, ça prend du temps, il faut beaucoup de volonté.
Jean-Louis Chilansky, vous êtes d'accord? Oui, sortir de l'addiction,
ouais,
c'est possible, mais ouais, ça va prendre du temps.
Oui, je crois que c'est surtout un changement de langage. L'Arabie Saoudite n'avait jamais dit ça. Et donc là, il y a vraiment une césure par rapport à tout ce qui était dit auparavant. Cela dit, il faut mesurer le problème, hein. L'Arabie Saoudite est un des premiers, sinon le premier exportateur de pétrole. Leurs exportations représentent des revenus de 300 millions de dollars par jour au cours d'aujourd'hui, et deux ou trois fois plus lorsque le pétrole était
à 100 dollars
le baril.
Oui.
Ils exportent l'équivalent de 5 fois la consommation française. Donc c'est un géant absolu du pétrole. Et pour changer ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile.
Alors, vous nous dites que c'est un changement de langage, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des tentatives, en tout cas, un affichage d'une volonté de diversifier? C'est pas la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite.
Pas à ce niveau-là. Pas en tous les cas avec des objectifs aussi spécifiques, avec un timing, en quelque sorte, un calendrier où ils disent d'ici 2020, 2030, on va se diversifier, on va sortir de cette addiction du pétrole. Cela dit, c'est une des addictions qui rapporte de l'argent. Il n'y en a pas beaucoup. Mais, je crois qu'il faut en prendre acte, c'est important, mais est-ce que c'est faisable? Ça, c'est une autre question.
Alors, Francis Perrin, vous étiez un tout petit peu plus optimiste. Vous dites, c'est faisable, ça va prendre du temps, mais alors, vers quoi il faut que l'Arabie Saoudite diversifie ses activités?
Alors, c'est faisable et c'est nécessaire, Mais ça prendra du temps et c'est difficile. Et il faut une très forte volonté politique, pas seulement quand on présente un plan qui a d'ailleurs été adopté par le Conseil des ministres, donc c'est pas seulement Mohamed Ben Salman, il en est l'architecte, mais voilà, c'est une décision du gouvernement saoudien. Ensuite, on sait très bien qu'en Arabie Saoudite, comme dans tous les pays du monde, entre l'adoption d'un plan par un gouvernement et son application sur le terrain, surtout sur 15 ans, vous imaginez tout ce qui peut se passer. Les oppositions, c'est quand même pas simple. Il s'agit effectivement de renoncer en partie, pas totalement, à un certain modèle économique de l'Arabie Saoudite depuis des dizaines d'années. On peut imaginer les oppositions, les inerties bureaucratiques, les intérêts qui sont mis en cause. Donc, savoir si l'Arabie Saoudite réussira à atteindre les objectifs fixés, ça c'est une autre paire de manches, mais l'affichage et la volonté politique sont présentes en tout cas au début. Pour le reste, effectivement, il faudra beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et puis, n'oublions pas que pour diminuer la dépendance d'un pays par rapport au pétrole, il faut donc développer d'autres secteurs au sein de l'énergie. Ça veut dire, c'est ce que le plan nous dit, le gaz naturel, dont il faut doubler la production, et les énergies renouvelables, notamment solaire, bien sûr, et éolien. Et en dehors du secteur énergétique, les secteurs qui sont mis en avant, c'est le secteur des ressources minières. L'Arabie Saoudite a un potentiel, c'est pas son potentiel pétrolier, mais qui est significatif. C'est le secteur des industries de la défense, c'est le numérique, c'est la fabrication d'équipements industriels, et en dehors de l'industrie, c'est l'éducation. Donc, il y a un certain nombre de secteurs dans ce plan, à l'intérieur du secteur énergétique et en dehors, qui sont fléchés pour dire c'est là-dedans qu'on veut investir, mais on va investir avec quoi ? Avec l'argent du pétrole. C'est l'argent du pétrole qui permettra, ou qui permettrait, de développer des secteurs non pétroliers, encore une fois.
Sur ce point, Jean-Louis Chilansky, dépendance au pétrole pour sortir du pétrole, finalement.
Oui, dépendance au pétrole pour sortir du pétrole. Je crois qu'il faut voir deux choses différentes. Il y a quelque chose qui est certainement faisable, c'est de changer la source de revenus qu'ils ont aujourd'hui du pétrole vers des placements financiers. Vous parliez tout à l'heure du fonds souverain. Ça, le fait que l'Arabie Saoudite déploie des moyens financiers importants pour avoir des revenus en substitution du pétrole, ça, c'est probablement très faisable. Et probablement à court terme ou à moyen terme.
Cette société, on dégagerait de l'argent en vendant 5% du Saudi capital Aramco. D'Aramco, oui. Voilà, qui est une énorme machine à cash aujourd'hui et qui dégage beaucoup d'argent.
Enfin, ça vaut beaucoup d'argent, Saudi Aramco. Hein, ça vaut 2000 milliards de dollars. Donc, s'ils privatisent ou s'ils vendent une partie de Saudi Aramco, ils touchent beaucoup d'argent. Puis ils ont un fonds souverain important. Donc, s'ils déploient leurs capacités financières, ils auront des revenus qui pourraient venir en substitution du pétrole. Ça, c'est clair. Par contre, le fait de développer des industries avec de la main-d'œuvre qui génère des revenus, qui génère de l'emploi, Francis Perrin vient d'en citer certaines qui sont vraiment très intéressantes, ça c'est un challenge d'une toute autre dimension.
Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre n'est pas formée ?
D'abord, il faut avoir la capacité de créer cette industrie, il faut trouver des marchés, c'est un projet industriel de grande envergure. Je crois que là-dedans, il faut distinguer deux choses. S'il s'agit de l'énergie en particulier, on mentionnait le gaz, ils ont du gaz de schiste en Arabie Saoudite, et ça, ils peuvent certainement l'exploiter. Quand ça va en dehors de l'énergie, en dehors du pétrole et du gaz, alors ça, c'est une autre affaire.
Vous êtes d'accord sur ce point, Francis Perrin ? Il va falloir changer totalement de modèle, former par exemple une main-d'œuvre, créer des marchés qui aujourd'hui n'existent pas ?
Ah, c'est clair, comme l'a dit Jean-Louis Chilansky, il y a certains changements qui sont plus faisables à court-moyen terme. Quand on a du pétrole, on a forcément de l'argent. Quand on a de l'argent, on peut placer cet argent et obtenir à ce moment-là des revenus financiers. Donc ça, évidemment, il faut bien gérer, mais ils en ont tout à fait la capacité. Et ils auront tous les conseils, évidemment, au meilleur niveau. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Et puis, ils connaissent déjà les fonds souverains. Ils ont déjà le Public Investment Fund, qui va d'ailleurs se transformer et croître et embellir. Mais disons, ils ont déjà cette expérience-là. Mais développer de nouveaux secteurs industriels, ça prend du temps, c'est difficile. Il faut se doter des compétences nécessaires. Ils peuvent le faire, mais ça demande de la durée, ça demande de la formation, ça demande aussi de faire monter en puissance le secteur privé. C'est d'ailleurs un des axes directeurs de ce plan, qui est un axe tout à fait intéressant pour l'Arabie Saoudite comme pour beaucoup d'autres pays producteurs, mais évidemment il faudra passer là du discours et de l'incantation à la réalité, ce ne sera pas simple.
L'Arabie Saoudite peut-elle sortir du tout pétrole? C'est le débat de ce soir avec Francis Perrin, que vous venez d'entendre, et Jean-Louis Chilansky. Jean-Louis Chilansky, je voudrais rebondir sur ce que vient de nous dire Francis Perrin. Développer le secteur privé, ça veut dire aussi avoir des appuis dans le secteur privé. Est-ce que aujourd'hui le vice-prince héritier a les appuis nécessaires pour mener cette diversification?
Oui, c'est non seulement des appuis, mais c'est aussi une culture. L'Arabie Saoudite est un pays très, très secret, très peu transparent. Un des défis de la privatisation de Saudi Aramco, c'est de vendre effectivement des actions dans le monde privé et d'avoir une transparence qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et donc c'est privatiser, c'est favoriser l'investissement privé, c'est avoir une certaine transparence des opérations, ce qui n'est pas la caractéristique du royaume saoudien aujourd'hui.
Et ça demande aussi une certaine ouverture peut-être à l'international.
Absolument.
Il me semble que pour investir en bourse, si on n'est pas saoudien, on ne peut le faire que depuis un an.
Absolument, il y a ça. Et puis, on parlait de formation. La formation, il faut accepter que des gens de l'extérieur viennent former, éventuellement des investissements. C'est donc un processus d'ouverture extrêmement important ou très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, vers lequel pourrait s'orienter l'Arabie Saoudite. C'est donc un très, très grand changement.
Et alors, comment y réagit ce secteur privé à ces annonces ?
Ou avec prudence.
Pour l'instant, avec prudence.
Oui, avec prudence, parce que c'est une capacité, c'est une possibilité d'investissement. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui considèrent réinvestir. Non, mais l'annonce, par exemple, de la privatisation ou de la vente de 5% de Saudi Aramco a généré beaucoup de réactions en disant ça peut être intéressant, il faut voir, mais il faudrait que les Saoudiens changent de pratique. On ne va pas investir dans une société dont on ne connaît pas les comptes, à la limite. Donc, c'est un vrai changement culturel par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui.
Et Francis Perrin, politiquement aujourd'hui, est-ce que le vice-prince héritier a les soutiens nécessaires pour mener ces réformes ? On sait qu'il a une sorte de rivalité avec l'un de ses frères, qu'il a, lui, beaucoup de pouvoir, mais que son autre frère, Mohamed Benayef, en a aussi d'autres. Comment ça va se passer ?
C'est clair que c'est l'un des points d'interrogation les plus importants par rapport à ce plan. Rappelons que ce plan, c'est Vision 2030. Ce n'est pas un plan sur 6 mois. Sur 6 mois, en politique, il peut déjà se passer un certain nombre de choses. Mais sur 15 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Il est clair qu'il y a une forte volonté réformatrice sur le plan économique de la part de Mohamed Ben Salman. C'est lui qui, il y a quelques mois, avait évoqué, avant que ce soit confirmé, il y a 2 jours, par le Conseil des ministres, l'éventuelle privatisation d'une petite partie du capital de Saudi Aramco. Il avait déjà évoqué la nécessité d'une diversification économique de l'Arabie Saoudite. Donc on sent que ce sont des idées qui lui tiennent à cœur. Il a un rôle, évidemment, il a concentré quand même pas mal de pouvoir, ministre de la Défense, vice-prince héritier, président de ce conseil des affaires économiques et du développement. Il est considéré comme l'homme fort du régime, mais nous sommes dans un contexte politique très particulier, très opaque, comme le rappelait à juste titre Jean-Louis Chilansky. Il y aura beaucoup d'opposition, il va se heurter à des habitudes établies sur des dizaines d'années, à différents niveaux de la société, au sein de la famille royale. Par conséquent, évidemment, il faudra une forte volonté politique dans la durée. On ne peut pas dire aujourd'hui, il va gagner son pari sans problème sur les 15 prochaines années. Personne ne peut le dire.
Mais vous soulignez tout à l'heure que ça a été adopté par le Conseil des ministres. Alors est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle génération ministres, une nouvelle génération aux manettes ?
Je ne suis pas sûr que ce soit une nouvelle génération. En tous les cas, lui, il incarne une nouvelle génération. Il a beaucoup de pouvoir, il est jeune. Il a un langage qui tranche complètement avec celui qu'on connaissait jusqu'à présent. Et puis, il a montré récemment, il y a une quinzaine de jours, lors de la réunion de l'OPEP de Doha, qu'il avait beaucoup d'influence. On ne connaît pas les coulisses de tout ce qui s'est passé, mais il semble bien que ce soit lui qui ait pris la décision de ne pas geler les quotas OPEP au niveau précédent, et donc qui a provoqué, en gros, l'échec de cette réunion. C'est un homme très puissant dans le dispositif.
Vous êtes d'accord, Francis Perrin ?
Tout à fait.
Même diagnostic ?
Ah oui, absolument. Pour la réunion de Doha, donc au Qatar, le 17 avril, il est tout à fait maintenant avéré que c'est sur ses instructions directes que la délégation saoudienne, pourtant dirigée par le ministre du Pétrole, qui n'est quand même pas un amateur, a reçu des ordres en disant « si l'Iran n'accepte pas, vous ne gelez pas, on ne gèle pas notre production », et comme chacun savait que l'Iran ne pouvait pas accepter cette condition, c'était effectivement forcément condamner la réunion de Doha à l'échec, ce qui n'est pas évident par rapport à la politique saoudienne traditionnelle. Donc Mohamed Ben Salman montre que sur certains points, il a déjà impulser certains changements. Mais là, nous parlons évidemment de quelque chose de beaucoup plus ambitieux. C'est transformer, pas complètement, mais quand même très significativement, l'économie saoudienne sur une période des 15 prochaines années. Là, évidemment, c'est un défi absolument majeur.
Est-ce que c'est pas aussi transformer le rapport des Saoudiens avec l'État? Il y a eu des baisses de prix, là, sur une augmentation, des prix, eau, électricité, essence. Ça, comment c'est perçu par la population? On leur dit, c'est un vrai progrès, vous allez payer plus.
On va voir comment c'est perçu, mais c'est vrai que c'est un énorme changement. L'essence, l'électricité, l'eau étaient largement subventionnées, et donc ça a contribué à un maintien d'une stabilité sociale. À partir du moment où ils enlèvent ces subventions, ça risque de provoquer des tensions ou des difficultés intérieures. Et donc c'est un autre des défis dont on vient de parler, c'est que ces changements ne vont certainement pas se passer si facilement. Il y a une chose qu'il faut rappeler, je crois que c'est que l'Arabie Saoudite est un pays à forte démographie. Il y a 30 millions d'habitants en Arabie Saoudite, c'est pas comme les Émirats Arabes Unis. Et donc transformer un pays de cette démographie, c'est une œuvre de longue haleine et particulièrement difficile.
Alors précisément, je voulais vous poser la question évidemment de la comparaison avec les voisins du Qatar et des Émirats Arabes Unis qui ont eux procédé et réussi à une diversification de leur économie. Est-ce que l'Arabie Saoudite s'est inspirée de ces deux exemples, Francis Perrin?
Oui et non. Parce que, comme le rappelait Jean-Louis Chilansky, on est sur une autre taille, notamment en termes de population. Les Émirats Arabes Unis et le Qatar sont des pays avec une population beaucoup plus faible, un niveau de vie par habitant beaucoup plus élevé que l'Arabie Saoudite. Ce sont les pays qui ont le revenu par habitant le plus élevé au monde actuellement. Donc le problème n'est pas de la même ampleur. Et puis, les Émirats Arabes Unis, c'est compliqué parce que c'est une fédération de 7 États. Donc vous avez Abu Dhabi qui est la puissance pétrolière et gazière. Vous avez Dubaï qui, lui, est largement diversifié depuis des années. Finance, investissement, tourisme,
réexportation. De l'économie.
C'est beaucoup plus compliqué. Le
Mais
Qatar n'a pas une économie extrêmement diversifiée. Donc le défi saoudien est quand même d'une toute autre ampleur dans la région.
Et alors vous parliez tout à l'heure aussi de transparence. Est-ce que le défi, c'est pas aussi, par exemple, de s'inspirer d'un fonds norvégien qui a fait beaucoup d'efforts en matière d'investissement éthique? Jean-Louis Chilansky.
Là, ça n'a vraiment rien à voir.
Comme une diversification éthique avec une certaine...
Évidemment. Non, mais les Norvégiens utilisent leur fonds souverain comme une garantie formidable pour leur pays. C'est à partir de là qu'ils financent leur retraite, c'est à partir de là qu'ils financent une partie du budget norvégien. C'est un outil fondamental. Et puis en plus, mais il est complètement transparent. Tout le monde sait où ils investissent, tout le monde sait ce qu'ils font. Et en plus de ça, comme vous le disiez très justement, les Norvégiens ont des règles d'investissement très précises et ils n'investissent pas dans n'importe quelle industrie.
Alors, est-ce que peut-être, puisque c'est la fin de l'émission, vous risqueriez un petit pronostic? Est-ce que cette diversification de l'économie, vous pourriez nous donner une date à laquelle vous pensez qu'elle serait crédible, Francis Perrin? Question très difficile, mais il nous reste quelques secondes.
Ah, je crois que, clairement, c'est une vision 2030. Dire qu'en 2020, il se sera passé des choses importantes, je n'y crois pas du tout. 2020, c'est demain, notamment dans le secteur énergétique. 2030, au moins dans le secteur énergétique, faire monter en puissance le gaz naturel par rapport au pétrole, ça c'est tout à fait réaliste. Commencer à développer les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, pour laquelle évidemment l'Arabie Saoudite a un potentiel absolument considérable, ça sera pas en 2030, évidemment l'énergie solaire sera pas plus importante que le pétrole, de loin. Mais pour l'instant ils n'ont pas grand chose, ils peuvent évidemment, ils ont l'argent, ils ont la volonté, faire monter en puissance. Par contre, en dehors du secteur énergétique, là 2030 finalement c'est assez rapproché pour diversifier véritablement l'économie saoudienne.
Jean-Louis Chilansky, rapidement.
En deux mots, la diversification financière, sûre à 100%. La diversification énergétique, elle est 80%. Le reste, c'est plutôt 20 ou 30%.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette émission. Jean-Louis Chilansky, président du Centre Hydrocarbures Non Conventionnels, le CHNC. Francis Perrin, président de Stratégie et Politiques Énergétiques, directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabe. Merci également à Marjorie Adelson et à Hélène Avril. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.